Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à la 16e édition du Grand Buffet de Radio Slash. C'est Domitil et je suis heureuse de vous présenter cette nouvelle émission. Nous sommes le jeudi 20 mai 2021 dans notre studio du CDI. Alors aujourd'hui, tout d'abord, nous vous informons que nous avons été élus pour la deuxième fois meilleure radio lycéenne de l'Académie. Le concours s'appelle Médiatique, organisé par le CLIMIS. Et maintenant, nous attendons les résultats du national.
Bravo,
trop bien.
Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir une invitée, Ingrid Lebrasseur, qui travaille en radio mais qui est aussi comédienne. Bonjour et bienvenue Ingrid.
Bonjour,
ravie d'être avec vous.
Nous aussi.
Nous aussi, oui.
Nous aussi.
On fera une petite interview au cours de l'émission. Sinon, au menu, nous avons Valentin qui nous va faire une leçon d'histoire. C'est bien ça, Valentin ?
C'est ça. Bonjour Domitil, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fête du travail.
Waouh, intéressant. Puis nous aurons une petite nouvelle, Alexia. Bienvenue Alexia, quel est ton papier aujourd'hui ?
Bonjour Domitil et merci. Mon papier, ça va être sur la criminalité au Japon.
Ok. Ensuite, encore une nouvelle recrue, Dounia. Bienvenue Dounia. Tu as lu un super bouquin, il paraît ?
Oui, j'ai lu un super bouquin Domitil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai fini récemment qui s'appelle « La vie trop compliquée d'April May ».
Waouh, génial! Romain a vu une très bonne série sur Netflix. Salut Romain!
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Snowpiercer.
Super! Puis ce sera Maeva qui a des théories sur les films de Miyazaki. C'est bien ça?
Oui, c'est totalement ça. Bonjour Domitil, bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une série Netflix, mais des studios Ghibli, ou Ghibli. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce.
Ghibli.
Ok, oui, d'accord. Merci, ça me rassure. Il s'agit du studio d'animation japonais de Miyazaki, et je vais surtout évoquer les théories qui circulent à propos de ses productions, comme La Princesse Mononoke, Mon Voisin Totoro, ou alors Chihiro. Voilà.
Waouh, ça promet. Et pour finir, nous écouterons Arthur sur l'actualité du sport extrême, que nous avons dû préenregistrer. Allez, c'est parti avec Valentin. Jingle.
Hey, balance.
Ton actu.
Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous parler de la fête du travail. Pour commencer, il faut savoir que la fête du travail, c'est pas nouveau. En France, les premières célébrations de cette fête ont lieu dès la fin du XVIIIe siècle pendant la Révolution. Au début, c'est le calendrier républicain créé par Fabre d'Églantine qui proposait de fêter le travail le troisième jour des sans-culottides. Alors, le troisième jour des sans-culottides, les sans-culottides, dans le calendrier républicain, c'était les jours chômés. Et donc le troisième jour des sans-culottides, c'était le 19 septembre. Mais la fête du travail telle qu'on la connaît aujourd'hui en France nous vient d'Amérique. C'est à la fin du 19e siècle, en 1884, que les syndicats américains veulent imposer aux patrons une limitation de la journée de travail à 8 heures. Ils choisissent de lancer leur action le 1er mai, qui correspond à ce qui s'appelle le Moving Day. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Moving Day, c'est un jour où, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de déménagements. Cela vient du fait que de nombreuses entreprises américaines terminent leur année comptable ce jour-là, et par conséquent, beaucoup de contrats de travail se terminent également ce jour-là. Les ouvriers déménagent donc souvent ce jour-là pour aller s'installer dans une autre ville et commencer un nouveau travail. C'est comme ça que le 1er mai est devenu une journée importante de manifestations ouvrières dans le monde entier. Ces manifestations n'ont pas toujours été pacifiques. On peut par exemple citer le 1er mai 1891 à Fourmies dans le nord de la France, où la police a ouvert le feu sur les manifestants et fait 6 morts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy a utilisé le 1er mai dans un but de propagande. Le gouvernement du maréchal Pétain a décrété que le 1er mai 1942 serait une journée chômée sans diminution de salaire. Ils n'ont pas oublié de préciser aux Français que le 1er mai est aussi la Saint-Philippe, qui est le prénom du maréchal. Ces mouvements ouvriers ont donc fait évoluer les conditions de travail en France. Ils ont notamment participé à la création d'un ministère du Travail et à l'instauration de la journée de 8 heures. Mais le 1er mai, c'est aussi la fête du muguet. Savez-vous pourquoi le muguet est associé à ce jour ?
Au bonheur.
J'avoue que moi, non, je sais pas.
C'est parce qu'au début du XXe siècle, la tradition voulait que les grands couturiers offrent des brins de muguet à leurs petites mains comme porte-bonheur. Donc, j'avais raison. Cela a inspiré la population ouvrière qui a décidé de remplacer la fleur d'églantine par le muguet. La fleur porte-bonheur.
C'est quand même plus joli, un muguet.
Oui, c'est vrai que c'est plus joli. Wow, la fleur d'églantine, c'est une fleur rouge, du coup.
À savoir qu'il y a toujours des manifestations le 1er mai, j'y étais, et il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue.
Il pleuvait, non ?
À Valence, il pleuvait.
Oui, voilà, ouais. Ça aide pas. Hein.
C'est pour ça, à mon avis.
Allez, on enchaîne avec Alexia.
Hé, hey, balance.
Ton actu.
Donc du coup, aujourd'hui, pour mon tout premier grand buffet, j'ai décidé de vous parler de la criminalité au Japon. Alors, faut savoir déjà qu'en France, le taux de criminalité, il est quand même pas trop mal. Donc déjà, je précise que c'est le taux de criminalité. Le taux de criminalité, c'est la proportion des infractions constatées par rapport à la population totale. Okay. Donc du coup, en France, on est quand même à 54,90%, ce qui est quand même pas mal.
Oh,
contrairement
au...
Ouais.
Un sur deux, quoi.
J'ai eu la moitié.
C'est ça, on est des grands criminels en France. Contrairement au Japon, où en fait, ils sont seulement à 18,55%.
Wow.
Donc c'est vraiment pas mal, en sachant d'ailleurs que dans les petites recherches, j'ai aussi constaté qu'aux États-Unis, on n'est pas très loin derrière eux. Hein. Alors que nous, on n'a pas d'armes à feu quand même. Donc bon... Donc du coup, moi, la question que je me suis posée et à laquelle j'ai essayé de répondre, c'est pourquoi est-ce que les Japonais ont un taux de criminalité aussi faible ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas ? Et bah du coup, j'ai trouvé plusieurs réponses. Alors déjà, il faut savoir que les Japonais sont élevés dans un esprit très communautarisme. On ne va pas penser à développer sa personnalité, contrairement à nous en France, on est tous encouragés depuis le plus jeune âge à se développer soi-même, et qu'importe les conséquences que ça aura sur les autres, on va plutôt penser au Japon à développer la communauté. On va penser vraiment en communauté et on ne fait pas un acte si on sait que pertinemment que ça va impacter les autres. On ne fait rien d'ailleurs parce que ça peut impacter les autres en général. Et ensuite, il faut aussi savoir que les Japonais, bon ça je pense que beaucoup de gens le savent, les Japonais sont extrêmement polis, très très respectueux envers les uns les autres. Enfin je veux dire, nous on se tape la bise en France, au Japon tu tapes la bise à quelqu'un, il fait une crise de tachycardie, hein, très clairement. Là t'es rentré dans son espace vital, c'est beaucoup trop loin pour lui là. Voilà, donc c'est des espèces de signes de révérence justement qu'ils ont en fonction de la personne, s'incliner de plus en plus bas jusqu'à s'en courber les chines, ça fait un peu mal. Donc je pense que ça peut aussi être lié à ça, à ce profond respect qu'ils ont les uns envers les autres. Et puis il y a aussi un côté très positif, je trouve, chez les Japonais. Les Japonais sont toujours dans un esprit « la vie est belle, c'est pas un problème, ne pensons pas à ça, voyons, nous sommes en vie, c'est tellement merveilleux déjà ». Je pense sincèrement que c'est grâce à tous ces éléments que les Japonais ont cet esprit voilà, qui n'est pas si criminel que ça, finalement. Et puis en plus, on va pas se mentir, au Japon, la police, c'est pas la police en France non plus. Les Japonais ont tellement parfois peur de la police que lorsqu'ils sont arrêtés alors qu'ils n'ont pas commis de crimes, ils avouent quand même des crimes qu'ils n'ont pas commis. Parce que la police est tellement impressionnante et tellement dure et horrible que du coup, on préfère dire « Non, si, c'est moi, promis. » Alors que non, tu n'as rien commis. Mais vraiment, au Japon, sur le plan judiciaire, il vaut mieux reconnaître des faits que tu n'as pas commis plutôt que de dire « Je n'ai pas fait ça. » Parce que là, les conséquences derrière, elles sont... Il y a des grosses conséquences derrière, ouais.
Wow.
Voilà.
Et maintenant, c'est à toi, Dounia.
De chapitre.
En chapitre.
Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un super roman que je vous conseille, qui s'appelle La vie trop compliquée d'April May, de Edith Bulwering, aux éditions Bayard. Donc, alors c'est le quotidien d'une ado comme vous et moi, à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Entre conflits avec ses camarades, les peines de cœur, l'amitié et le fait que son père sort avec son ancienne prof de français, bref, c'est trop compliqué. Ce livre est quand même comique et rocambolesque. Je l'ai beaucoup aimé car ça retrace une vie d'ado banale, ou presque. C'est drôle, bourré d'humour. Pour un début dans la lecture, c'est très bien. En tout cas, pour ceux qui lisent pas ou qui n'ont pas l'habitude. Il se lit assez rapidement. Voilà, parce que les lettres sont assez grosses, c'est très, enfin, même si on, il y a beaucoup de pages et tout, c'est assez lisible. Et...
Ah, c'est trop bien les livres.
C'est facile, c'est facile à lire.
Ouais. C'est oui, bien mieux que les livres.
Quand on a 8
petit,
ans,
là.
On lit ça. Quoi.
C'est ça.
Ouais. Pas obligé d'être dédaigneux.
J'avoue que je l'ai eu très jeune, donc bon. Pour, ouais. Il se lit assez rapidement. Oui, il se lit assez rapidement, ça je l'ai déjà dit. Si vous le voulez aussi comme moi le lire, bah, il vous suffit de l'acheter en librairie, car il existe aussi un tome 2. Voilà, je le précise. Ou peut-être bientôt sera-t-il disponible au CDI.
Oui, bien sûr.
On l'espère.
On l'espère, on l'espère.
Waouh, passionnant. Et c'est, et c'est l'heure de l'interview. Bonjour Ingrid Le Brasseur.
Bonjour.
Alors, bah, vous allez bien ?
Oui, très bien.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors je suis Ingrid Le Brasseur, je suis comédienne dans la troupe qui s'appelle la compagnie Vianova. On travaille particulièrement à Quetzen, c'est un tout petit théâtre qui est à l'extérieur de Valence, en allant sur la route de Châteauneuf. Je suis comédienne depuis une dizaine d'années, mais avant j'étais animatrice radio pendant 7 ans, la radio RCF, Radio Chrétienne Française, qui a des antennes partout en France. Et voilà, en gros. Et au départ, je voulais être journaliste aussi. Ça a beaucoup croisé dans mon parcours.
D'accord. Donc du coup, vous avez fait de la radio, vous y faisiez quoi ? Enfin, vous étiez,
Alors, j'étais animatrice au départ. En fait, il y avait juste un contrat de 6 mois à 32 heures. Il fallait faire l'animation, c'est-à-dire ce que tu fais, finalement. Et puis, comme c'est des petites radios, on fait tout. Donc, je fais la technique aussi. Et petit à petit, je me suis intéressée à l'interview, au reportage. Donc, j'ai fait à peu près toutes les formations internes à la radio qui pouvaient se présenter. Et donc, au bout d'un moment, j'animais des tranches, et puis je faisais aussi le journal, et puis j'allais en reportage à l'extérieur. Je suis même partie au Sénégal, en Algérie aussi, pour le national, parce que c'est une radio qui est un réseau national. Et du coup, je me suis beaucoup intéressée au son après, grâce au montage, grâce au reportage. C'est-à-dire qu'après, on peut travailler le son de manière plus artistique, ou plus s'intéresser à l'ambiance, etc. Donc j'ai fait une formation, j'ai quitté la radio pour faire une formation spécifiquement dans le domaine de la création sonore, qui est un domaine un peu moins connu, enfin même carrément pas très connu du tout.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que vous faites dans les... Vous faites des bandes-sons, c'est...
Alors la création sonore, c'est un petit milieu, et en même temps, en fait, il y en a partout. Par exemple, le son dans un film, on n'y fait pas forcément attention tout de suite parce que en fait, on est focalisé par l'image. Mais c'est des ingénieurs son qui travaillent les bandes son dessous et c'est très très travaillé. Alors là, c'est quand c'est lié à de l'image. Mais on peut aussi travailler des podcasts sonores. Maintenant, ça se fait de plus en plus d'ailleurs.
Ah, oui.
Il y a Arte Radio qui est très connu, qui propose beaucoup de créations sonores. Et puis, il y a maintenant, on en trouve un peu partout, je crois que même sur Télérama. Au début, sur France Culture, il y avait beaucoup de choses comme ça, dans le côté plus créatif, des fictions. Parce qu'on peut très bien travailler une information, mais pas sur un plan juste d'information, mais aussi de manière fictionnelle. C'est-à-dire de faire un documentaire qui soit plus une fiction qu'une interview de... Enfin, voilà. On est à la jonction, en fait, entre l'artistique et le journalistique. Oui ?
Du coup, moi, j'avais une question à vous poser. Oui. Est-ce que, quand vous travaillez, justement, sur des bandes-sons de films, est-ce que c'est les réalisateurs ? Est-ce que vous avez des consignes à respecter pour certaines scènes ou quoi ?
Alors, moi, j'ai jamais fait ça, en fait. J'ai pas fait de bandes-sons pour des... Mais par contre, j'ai fait des créations sonores pour... Par exemple, pour le musée de Valence, on avait une carte blanche. Et donc là, il fallait travailler autour de tableaux d'une exposition sur le symbolisme. Donc, je me suis amusée à travailler à partir d'un poème et puis de sons extérieurs que j'ai travaillé sur le plan de la musicalité, plutôt.
D'accord. Voilà. Et vous avez travaillé sur les sons en lien avec la nourriture aussi ?
Alors ça, oui, c'est une petite chronique, une petite fiction que j'ai réalisée l'année dernière pour un concours de radio. C'est un concours où il faut faire une création en une minute.
D'accord. Bon, on va l'écouter.
Plat, car,
placard,
saladier,
farine,
300 grammes,
sel,
un peu d'eau,
pas trop,
8 centilitres,
la salade,
deux.
Poireau,
coupé
de temps en temps,
petites gorgées de bière. Épluchez, épluchez,
carottes,
épluchez, coupez, étalez la pâte avec un rouleau,
poêle, boire aussi de temps noir. Gorgées de bière.
Cassez,
je plaque.
Oh, chat, j'attends. Battre, chat, verse la préparation. Poivrer,
enfourner.
C'est délicieux.
Waouh, waouh.
C'est vachement sympa, c'est très abstrait.
C'est vrai que j'aime beaucoup. Oui, c'est abstrait, voilà.
Et vous les faites comment, vos sons?
J'ai fait tous les sons moi-même, du coup. J'ai un enregistreur. Et puis, alors au début, j'ai fait vraiment pendant une heure, donc tout, la quiche, etc. Et puis, j'ai réécouté. Et au bout d'un moment, j'ai sélectionné ce qui marchait le mieux au niveau du son. Et puis, il y a vraiment eu mon chat qui n'arrêtait pas de miauler au moment où je faisais la prise de son. Donc, je l'ai rajouté. Et puis, après, ce n'était pas assez rythmé. Donc, j'ai mis des petites musiques derrière. Et puis, en fait, ça n'a pas l'air comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir une quinzaine ou une vingtaine de pistes de montage dans un logiciel. Et je ne sais pas combien de petits bouts de son, mais beaucoup. Et pour faire une minute, je pense que j'ai mis 2 semaines. J'avais compté, je pense, c'est plus de 20 heures en cumulé pour faire une minute comme ça. Voilà.
Vous avez dû en faire des quiches, du coup, au final.
Bon, après, j'ai refait que les gestes. J'avoue, j'ai refait le quiche à chaque fois.
D'accord. Et elle vous vient d'où, votre inspiration, du coup, quand vous faites...
Ça, c'était un concours, donc, en une minute. Et comme c'était le confinement, je me suis dit que j'avais envie d'un truc léger, en fait, plutôt que de toujours se dire, je vais me prendre la tête sur un sujet hyper important, le Covid, c'est grave et tout. Et donc, j'étais chez moi, et effectivement, je buvais une bière, j'ai fait une quiche, et j'avais envie d'un truc joyeux, en fait, et quotidien. Et de se dire qu'on peut faire avec ça aussi. Et en fait, je me rends compte aussi, quand on fait la cuisine, c'est très musical, quoi. On est là, ça fait tac, 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 nanana. Et donc, j'avais un peu bloqué là-dessus. Et je me suis dit, je vais faire ça en une minute. Je vais essayer de montrer comment, dans le quotidien, comme ça, les gestes, les placards, les trucs, ça fait de la musique. Il y a une espèce de musique du quotidien que j'ai accélérée, évidemment.
D'accord. Vous avez été comédienne, du coup. Enfin, vous êtes comédienne.
Oui. En fait, j'ai commencé en radio en professionnel, mais je faisais du théâtre par ailleurs. Et puis, petit à petit, j'ai beaucoup fait de théâtre. Et donc, quand j'ai quitté la radio, j'ai fait la formation en création sonore. Et quand je suis revenue, la compagnie m'a proposé de me professionnaliser. Et en fait, c'est très proche, les deux. Enfin, en tout cas, ça se rejoint. D'ailleurs, je me rendais compte quand j'étais animatrice que je jouais un peu l'animatrice qui est au micro. Puis après, il fallait faire la voix du journaliste. Donc, c'est un peu plus sérieux pour dire les infos. Pour la météo, c'était encore autre chose. Donc, il y avait déjà un peu du jeu, quoi. Puis le fait d'improviser beaucoup, même si on écrit en radio quand même ce qu'on dit. Sinon, on est un peu perdu.
Oui.
Et donc, le théâtre, c'est devenu vraiment une vraie, vraie passion. Et puis, on fait des fictions radio, du coup, avec une autre radio locale qui s'appelle Radio Méga. Donc là, justement, je les fais travailler en théâtre. Et puis après, on enregistre comme un film. On fait des plans séquences, mais où j'enregistre juste le son. Donc, les enfants doivent aussi réfléchir sur une scène pour que ce soit intéressant de manière sonore. Donc, pareil, on fait claquer les portes, je leur fais faire des bruitages. Et puis après, je monte. Il y a beaucoup de post-production, évidemment, dans ce genre de... C'est là la différence, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de montage. Beaucoup d'heures sur l'ordinateur, beaucoup de réécoute. Voilà.
Oui, Valentin ?
Je voulais savoir parce que du coup, vous avez fait un gros travail par rapport au son et tout ça. Et est-ce que du coup, en étant comédienne, vous l'incluez beaucoup dans votre travail ou est-ce que vous restez dans une compagnie plutôt classique à juste faire un spectacle ou vraiment, du coup, vous rajoutez du sonore et tout ça ?
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand tu dis en fait, le son est très présent maintenant dans le spectacle vivant. Vous avez peut-être pu le remarquer si vous allez au théâtre.
Oui.
Et effectivement, on travaille aussi ça maintenant. Il y avait même toute une pièce où on voulait rajouter des sons du quotidien dans Macbeth. Et oui, moi j'ai travaillé, j'ai fait les bandes de son. Du coup, tu me disais oui pour le cinéma, mais je l'ai fait pour le théâtre. On avait fait entièrement les bandes son du spectacle. on crée des sons entièrement nous-mêmes à l'intérieur des spectacles. On le fait très,
d'accord,
très souvent.
Ok.
Sympa.
Ouais.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et maintenant, un petit intermède musical avec Abdelkader de Terminal GA, Gestion Administration, qui nous a interprété un morceau de piano. Très joli, bravo Abdelkader. Allez, on continue avec Romain.
Silence. On tourne.
Snow Party est une série Netflix sortie en mai 2020. Elle est tirée d'une BD de Jean-Marc Rochette et Jacquette Loeb. C'est l'histoire d'un monde glacé. Toutes les personnes sauvées se sont retrouvées dans le train, dans le transfert de neige, dans le transfert de neige de la train avec au mille et un wagons qui reproduisent l'échelle sociale. Il y a plusieurs classes, la première classe, la deuxième classe, la troisième classe et les 100 classes qui sont maltraitées. Si on ne respecte pas les règles, on est puni par un bras gelé puis détruit. Tout au long de la série, on suit l'enquête d'un ancien policier à propos d'un meurtre, plein de rebondissements, beaucoup de suspense. Bref, j'ai adoré cette série. Une deuxième saison est sortie en janvier dernier. Si vous en voulez plus, vous laissez avec la série.
Ça a l'air super! Maëva, à toi.
Hé, hey, sors les pop-corn.
Alors, les studios Ghibli. D'abord, qui a regardé les studios Ghibli sur cette table?
Moi.
Moi, personnellement.
Moi, je connais
sous
pas.
Sous tes conseils, d'ailleurs.
D'accord.
Bah, du coup, vous allez comprendre alors. Bref, passons. Plusieurs théories circulent à propos des films de Miyazaki, donc le réalisateur. Théorie numéro 1. La princesse Mononoke s'habille avec le corps de sa sœur.
C'est pas possible. C'est pas possible.
Être abandonné dans une forêt pour être élevé par des loups, ce n'est pas nouveau comme concept. Pourtant, il y a bien une différence entre Mowgli et la princesse Mononoke. Cette dernière a été abandonnée à la déesse des loups, Moro. Même si c'est révélé à la fin du film, on sait que ses parents l'ont laissée pour pouvoir s'enfuir. Mais qu'avaient-ils fait de mal? Eh bien, ils avaient souillé la forêt. Alors oui, c'est pas ouf comme acte méchant. Heureusement, certains fans ont eu des théories intéressantes comme « Et si les parents de Mononoke chassaient une fille de Moro et avaient réussi à tuer une louve ?» Ce qui expliquerait pourquoi les parents de Mononoke auraient donné leur fille à Moro pour compenser le meurtre de leur fille. De sa fille. Vous suivez ou pas?
Oui, ça va. J'ai un peu du mal.
Moi, j'ai retenu que les écologistes sont sévèrement punis. Non, les anti-écolos sont sévèrement punis dans cette forêt.
Bref. Mais la déesse des louves, plutôt que de savourer la chair du bébé, aurait préféré l'élever. Comme c'est beau. Et enfin, on arrive à la conclusion. La peau portée par Mononoke serait alors celle de la louve, assassinée par ses parents, assassinée par ses parents qu'elle garderait sur elle. Mais ça ne reste qu'une théorie. Ensuite, théorie numéro 2. Totoro est un dieu de la mort.
Mais vous êtes fous !
Déjà, qui connaît cette théorie? Parce qu'elle est vachement connue.
J'en avais vite fait entendu parler, mais vraiment vite fait.
Non, d'accord.
Pas du tout.
Alors oui, cette théorie est très connue. Enfin non, du coup. Mais
Elle n'est pas connue de nous.
Je ne vais pas la raconter dans les détails, car ce serait vraiment très long, étant donné qu'il y a énormément de choses à raconter. Mon voisin Totoro est l'histoire d'un très gros et sympathique esprit de la forêt qui aide deux petites filles, Mei et Satsuki, à passer du temps. Mais Totoro et ses amis féeriques sont en réalité des Shinigami, c'est-à-dire des dieux de la mort, voire la grande faucheuse. Surprenant ?
Un peu quand même, il est vachement mignon quand même, hein, vu comme ça.
C'est vrai,
il
est...
C'est vrai.
C'est bien.
On dirait un gros nounours.
Ouais. Une fois de voir la mort de façon positive, c'est bien.
C'est ça.
Parce qu'elle dit que c'est un gros machin, ouais, il fait 500 kilos le truc quand même.
Pourtant, les preuves sont bien là, et plus on s'y aventure, plus c'est flagrant. Vers la fin du film, mais la petite sœur disparaît et tout le monde s'acharne à la retrouver. Mais quand une sandale est retrouvée, les hypothèses mènent vers une noyade. Alors que Satsuki, la grande sœur, est convaincue que c'est faux, la grand-mère, elle, pense le contraire. Et c'est à partir de là que la théorie va vous déprimer. Dans le film, Mei est retrouvée grâce au Chabus. Mais selon la théorie des fans, Mei est bel et bien morte et Satsuki est dans le déni. Elle retourne donc dans le monde des morts pour se tuer et rejoindre sa sœur. En plus, quand Satsuki monte dans le Chabus, il y a plusieurs destinations proposées et sur l'une d'elles, il est inscrit « Route de la tombe ». Mais ça passe très vite, du coup on ne le voit pas vraiment, mais il y est. Ça serait un moyen de faire passer les âmes des vivants dans l'autre monde. D'après les fans, mon voisin Totoro est basé sur un événement tristement célèbre et réel appelé l'incident de Sayama. Retenez bien le nom Sayama. Un horrible crime réel qui impliquerait le meurtre d'une petite fille suivi du suicide de sa sœur. Et un élément surprenant relie les deux dans mon voisin Totoro. Déjà, Totoro se passe à Sayama Hills. Coïncidence ?
Je ne crois pas.
Alors, les prénoms des personnages principaux sont Mei, comme le mois de mai. Enfin, ça se prononce pareil, quoi. Et Satsuki, qui veut dire mai en japonais, date qui correspond à la date du crime réel. Je vous invite vraiment à regarder des vidéos explicatives, car c'est vraiment intéressant. Et surtout, mes explications ne sont pas forcément très compréhensibles. Bref, passons. Allez, une petite dernière théorie. Connexion entre les productions du studio Ghibli.
Non mais c'est des dingos là.
D'après les fans, toutes les réalisations de Miyazaki seraient liées. Comme dans les Pixar ou dans les Disney ou même les Simpsons, enfin bref.
Oui, ils émettent des petits éléments pour rappeler les anciens films et tout.
Exactement. Mmh. Bah, premièrement...
Ils font des
liens. Oui, exactement. Pardon. T'inquiète pas. Premièrement, Yubaba est la grand-mère dans Totoro. Serait la même personne ou alors de la même lignée. Outre, Dola, du Château dans le Ciel, serait la version plus âgée de Fifi Brin d'Acier. Totoro et Chihiro à travers les Noiraudes. Mais on voit une et Chihiro tout un tas. Il y a aussi ce passage où Haku dit...
Mes souvenirs me reviennent à présent. Comment aurais-je pu oublier le moment où tu es tombé au fond de moi ? Tu te penchais pour repêcher ta chaussure ?
Oui.
Eh bien, dans Totoro, quand tout le monde cherche May, il retrouve une chaussure rose provenant d'une rivière. Ce serait comme si c'était la chaussure de Chihiro, quoi. Bref, Gigi, ou Gigi, je sais pas comment on prononce, le chat de Kiki la petite sorcière, apparaît quelques secondes dans le voyage de Chihiro sur un coussin. Enfin, il y a vraiment plein de moments comme ça, c'est super bien. L'univers de Miyazaki est super riche et on peut imaginer plein de théories.
Effectivement, c'est troublant toutes ces théories. Merci Maëva. Et pour finir, on écoute Arthur avec et l'actualité des sports extrêmes.
Et surtout, n'oublie pas tes...
baskets.
Le week-end dernier, à Paris, s'est déroulé le championnat de France de parc en skate. Madeleine Larcheron et Tom Martin ont remporté leur catégorie, mais celle qui a brillé, c'est Louise Aina Taboulé qui a décroché le titre de vice-championne de France à seulement 11 ans. Ensuite, en Russie, il s'est déroulé une épreuve pro de BMX Park. C'est le Vénézuélien Daniel Durs qui l'a remporté, mais sa récompense n'est ni une coupe ni une médaille, mais un vrai pistolet, ce qui est raccord avec le nom de la compétition, la Kalashnikov Cup. Oui, aussi, le concours Unreal Slackline Master a dévoilé les 6 vidéos qualifiées pour la finale où l'on retrouve le français Valentin Huet. Si vous voulez voir les vidéos des qualifiés, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Gibbon Slackline. Et enfin, le polonais Dirk Barasonowski et son compère Andrzej Bargiel sont les premiers à escalader le mont Yawash 2 au Pakistan. Ils ont mis 7 heures sans oxygène à gravir les 6178 mètres avant de les descendre en ski sur la face ouest. Voilà, c'était tout pour moi. C'est sûrement ma dernière chronique ici. Alors, bonnes vacances.
Merci, Arthur. Et c'est ainsi que se termine cette 16e édition du Grand Buffet. Un grand merci à Ingrid Lebrasseur. Bonne continuation pour la suite. À la régie, Monsieur Noureux. Ah oui, je vous signale que nos confrères du hashtag... la Gazette du lycée va sortir son 9e numéro en début de la semaine prochaine. On apprend juste à l'instant qu'ils viennent de recevoir le prix national du meilleur journal lycéen. Voilà, c'était notre dernière émission de l'année. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures radiophoniques. N'hésitez pas à nous rejoindre. Salut à tous et à bientôt sur Radio Slash.